This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débat à la tête de 90 Minutes Info. On va évidemment évoquer, développer tous les thèmes juste après. Le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est en compagnie de Somaïa Labidi. Bonjour.
Les suites de la réforme des retraites avec une motion de censure présentée cet après-midi. La députée socialiste Valérie Rabault défendra à partir de 16h cette nouvelle motion de l'alliance de gauche NUPES. Mais faute de soutien de la droite, il est très peu probable que la censure soit votée. Décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans, des Italiens en nombre pour lui rendre hommage devant l'hôpital San Raffaele de Milan où il était soigné pour une leucémie et devant son domicile. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, a salué la mémoire de l'un des hommes les plus influents de l'Italie. Des funérailles d'État se tiendront mercredi à Milan. Et puis la guerre sur le terrain et la guerre de communication continuent de faire rage entre Moscou et Kiev. L'armée russe affirme avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans la zone du sud de l'Ukraine où Kiev a revendiqué la capture de plusieurs localités. Des informations ni démenties ni confirmées par Moscou. Quant aux autorités ukrainiennes, elles restent mutiques sur leur objectif, leur stratégie et leur tactique.
Au sommaire aujourd'hui, l'émotion à peine retombée à Annecy alors que les nouvelles des enfants sont encourageantes. Le débat sur le processus d'octroi du droit d'asile reprend de plus belle.
Et si nous arrivons à la tête de l'État, nous engagerons une réforme, nous remettrons à plat le système Schengen auprès de l'Union européenne pour faire en sorte que cette libre circulation ne concerne en France que les ressortissants de l'Union européenne.
Il y a depuis des années une volonté de contrôle, d'amélioration des choses. Mais ce qui est indéniable, si vous voulez, c'est que d'abord, il n'y a pas d'unité entre les différents pays de l'Union européenne.
L'Italie, endeuillée après la mort de Silvio Berlusconi, personnalité hors norme en tout point, il a marqué des générations d'Italiens.
Silvio Berlusconi était avant tout un combattant. C'était un homme qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie.
Enfin, nous parlerons de la dernière action coup de poing de soulèvement de la terre s'en prendre à une exploitation agricole près de Nantes au prétexte qu'elle utilise du sable et de l'eau en grande quantité.
On travaille justement sur de nouvelles pratiques dans ce centre, des pratiques plus vertueuses, des pratiques économes, des pratiques innovantes. S'il y avait un endroit à détruire, c'était pas celui-ci.
On est des activistes écologistes qui essaient d'agir à la hauteur des enjeux en faisant des actions de désobéissance civile qui sont pas du tout assimilables à des crimes ou à du terrorisme.
Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai plaisir à accueillir Gabriel Cluzel. Bonjour Gabriel, je rappelle que vous dirigez la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être là à vos côtés. Aurélie Gros, vous êtes maire dans l'Essonne. Coudray-Monceau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et bienvenue Sabrina Medjeber, je rappelle que vous êtes essayiste. On s'est vu pas plus tard que la semaine dernière. On va d'ailleurs reparler d'Annecy. Retour en Haute-Savoie en ce début de semaine. Après le recueillement très suivi ce week-end, on va prendre évidemment des nouvelles des enfants hospitalisés. La plupart dont on sait maintenant qu'ils sont hors de danger. Bonjour Thibault Marcheteau, vous êtes au CHU de Grenoble, où vous avez pu rencontrer des patients qui, eux, ont discuté directement avec les familles de ces nourrissons et de ces très jeunes enfants.
Effectivement, il y a quelques minutes, on a pu s'entretenir avec un témoin qui a pu rencontrer l'un des parents des enfants qui a été poignardé ce jeudi matin à Annecy. Il nous a expliqué que ce papa est très rapidement venu vers lui quelques heures après les faits pour lui expliquer que voilà, c'était un papa dont l'enfant avait été poignardé et qu'il avait évidemment beaucoup de questions quant à l'état de santé de son enfant. Il ne pouvait pas évidemment répondre à toutes ces questions. Il a néanmoins pu discuter avec lui et je vous propose de l'écouter.
J'ai rencontré directement le papa d'un des petits garçons qui avait reçu, il me semble, quatre coups de couteau, le foie perforé. Et c'était vraiment mal parti à la base pour eux. Là, maintenant, leur pronostic vital est plus engagé. Je ne pense pas qu'ils sont encore ici. À mon avis, ils ont peut-être été retransférés sur Annecy. Mais grosse frayeur pour les parents, pour qui étaient sous le choc en plus. Je pense qu'ils ne réalisaient même pas eux-mêmes ce qui s'était passé.
Durant cet entretien, notre témoin nous a signifié que le papa n'a à aucun moment éprouvé de sentiment de colère ou de vengeance quant à l'assaillant de son enfant. Concernant l'état de santé des victimes, le président de la République ainsi que la procureure de la République d'Annecy ont apporté des nouvelles positives puisque plus aucun pronostic vital est engagé. On devrait avoir des nouvelles sur l'état de santé de ces quatre enfants toujours hospitalisés dans les prochains jours.
Merci beaucoup Thibault et merci à Pierre Emco qui vous accompagne aujourd'hui pour les images. Aurélie Gros, je commence avec vous. On va en venir à tous les points qui font débat depuis la semaine dernière, forcément. Mais au-delà quand même de certains débats qu'on a pu trouver stériles, il ne faut pas qu'on en perde de vue l'objectif. C'est-à-dire que le principal aujourd'hui, c'est de s'enquérir de la santé des enfants. Et c'est bien cela qui nous rassemble et qui nous réunit depuis maintenant plusieurs jours. Et c'est heureux finalement que les choses semblent se solder par des nouvelles encourageantes.
Évidemment, il n'y a pas de mots pour qualifier un tel acte. Vous le savez, moi, je suis maman de 4 enfants et je pense qu'autour de la table, en tant que femme, et même les hommes, les papas, un acte aussi ignoble, s'en prendre à des enfants, ça paraît tellement inconcevable. Mais je crois que être politique, c'est aussi éviter d'être trop dans l'émotion et regarder les faits. Que l'enquête se poursuive et qu'on puisse enfin juger cet acte de barbarie inqualifiable. Les juges sont là pour ça. Maintenant, on est très rassurés, en tout cas, que ces enfants soient sortis d'affaires. Mmh. En tout cas, sortis d'affaires. En urgence vitale qu'il n'y ait pas de séquelles.
Et puis l'enquête, donc, puisque vous mettez le pied à l'étrier. Oui. Le suspect a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Ça, c'était en fin de semaine dernière. Il a été placé en détention samedi. Sans que l'enquête, d'ailleurs, n'ait encore permis de comprendre tout à fait son geste, parce qu'il parle très peu. Bonjour Thomas Bonnet, alors vous c'est le volet que vous suivez, c'est un homme qui a eu un comportement étrange et qui aussi a été placé depuis en cellule anti-suicide.
Tout à fait, il est en détention provisoire depuis samedi au centre pénitentiaire d'Eton, c'est à environ une 40aine de kilomètres d'Annecy et il est donc placé dans une cellule à l'isolement, une pièce spéciale où tout est fait pour éviter qu'il se suicide. Concrètement, cela veut dire que l'administration pénitentiaire veille à qu'aucun objet pouvant représenter un danger ou dont il pourrait se servir pour tenter de mettre fin à ses jours ne soit présent dans cette cellule. Alors dans ces cellules, qu'on appelle communément des cellules anti-suicide généralement, les meubles sont conçus de manière lisse et arrondie, le linge est déchirable, vous l'avez compris, c'est pour éviter donc que les personnes qui sont placées dans ces cellules ne puissent porter atteinte à leur intégrité physique. Il y a également un système de surveillance particulièrement renforcé avec des caméras et des rondes très fréquentes de la part des surveillants pénitentiaires. On rappelle que depuis son interpellation jeudi dernier, le suspect ne parle pas aux enquêteurs, il reste muet face aux enquêteurs, muet face aux juges d'instruction, ce qui complique évidemment les investigations. On rappelle enfin que pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Merci à vous et merci également à Charles Bagé qui vous accompagne. Sabrina Medjeber, c'est vrai que l'enquête a semblé progresser très vite. On a eu très vite des éléments biographiques sur son parcours migratoire également. Mais il y a toujours un sentiment de frustration lorsque le mobile, hein, pour les enquêteurs, le motif n'est pas clairement établi. Et puis là, il y a une incertitude aussi sur la capacité ou pas à terme d'être jugé pour cet individu.
Alors, il y a une incertitude, effectivement, quant au déroulé de l'enquête, mais il y a aussi une incertitude, je pense, qui concerne les Français sur le sort, en réalité, juridique de cet individu, puisque on lui a refusé le titre de séjour suédois, il est venu en France, et il a commis un acte barbare, donc quid de l'issue de l'enquête, c'est-à-dire où allons-nous le renvoyer? En Suède, en Syrie, on sait que ça n'est pas possible, puisque de toute façon, il n'y a pas de relations diplomatiques avec la Syrie et surtout que c'est un État en guerre. Donc la question se pose sur le sort en réalité de cette personne postérieurement à l'enquête. Je rappelle qu'il va donc faire partie de ces 25% dénoncés par Mme Belloubet. Hein, d'accord, hein, c'est pas une idéologue d'extrême droite qui le dit. 25% des incarcérés sont des étrangers. Donc cette personne va encore se greffer au nombre qui devient de plus en plus difficile d'étrangers dans nos prisons aux frais du contribuable français. Et là, en l'espèce, ce que j'observe, c'est qu'il est effectivement isolé dans une cellule. Et je remarque encore une fois que ce sont les enluminures du service public français qui protège cet individu contre une tentative de suicide. Et je me permets de m'insurger après. C'est le droit, évidemment. Je ne peux pas le discuter. Mais comme tous les Français, je m'interroge sur le sort définitif de cette personne.
Gabriel Cluzel, pour vous, il n'y a aucun doute sur le fait que cet individu doit être jugé en France pour des faits qu'il a commis ici. Puis après, on verra en termes d'incarcération.
En tout cas, j'ai un gros doute sur la nécessité de le garder ici. Alors je sais que c'est un argument qui est beaucoup développé. Ah oui, mais il y a 25% d'étrangers dans nos prisons, mais quand ils ont fait des forfaits chez nous, au moins ça permet de les juger sur notre sol, de s'assurer qu'ils soient condamnés. Moi, je suis persuadée que ce genre d'individu, s'il avait affaire à une justice, la justice de son pays d'origine, par exemple syrienne, pour des faits similaires, il ne serait pas traité avec autant d'aminité. De fait, ça va devenir quand même le sparadrap du capitaine Haddock, si on peut parler sur un plan humoristique d'un sujet aussi grave. Mais parce que nous allons le traîner comme un boulet. La justice française va le juger. La Syrie, il y a peu de chances que la Suède ne va pas l'emprunter. Vous l'avez tout à fait développé. Pour la Syrie non plus. Donc, nous allons le garder dans nos prisons avec une justice qui a son fonctionnement, avec potentiellement ses remises de peine. Tant mieux, aucun, heureusement, Dieu merci, Deo gracias, il n'y a pas d'enfant qui a succombé. Mais néanmoins, quelle sera la peine et quand sortira-t-il et qu'adviendra-t-il de cet individu? On pourrait dire finalement que ce droit d'asile qui réclamait à corps et à cri en France, il l'a d'une certaine façon obtenu de facto.
Alors, vous touchez un peu du doigt toutes les deux, l'une et l'autre, un thème important bien sûr à développer, c'est-à-dire le maintien dans nos prisons, sachant qu'effectivement elles sont occupées en grande partie par des étrangers. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est le droit d'asile. Comment l'octroyer? Les frontières de Schengen, on reviendra évidemment aux déclarations de Jordan Bardella sur notre antenne. J'aimerais qu'on reste sur l'aspect psychologique de l'individu pour voir s'il sera à même d'être jugé ou pas. Et on va en parler avec le docteur Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue et criminologue. Bonjour, merci de nous rejoindre. On parle beaucoup d'un individu assez étrange, qui s'est roulé par terre, qui n'a pas parlé, qui a été mutique au fond avec les enquêteurs. Il faut quand même préciser qu'une prise en charge psychiatrique, pour tous ceux qui disent il faut que les gens soient traités avant qu'ils ne puissent commettre des méfaits, ça n'est que volontaire ou à la demande des proches. Or là, visiblement, il y a eu un problème pour détecter cet homme.
Oui, effectivement, parce que cet homme avait une trajectoire sur la fin de SDF, donc il laissait très peu de traces. Il passait en quelque sorte sous les radars, il n'avait pas commis d'infractions connues, ou du moins, s'il a commis des infractions, elles n'étaient pas connues. Donc, il y avait peu d'éléments pour se prononcer. Après, c'est un problème politique, vous allez en parler tout à l'heure, l'espace Schengen, les politiques d'immigration, etc. Mais pour l'instant, cet individu, on ne sait pas d'abord s'il présente des troubles mentaux ou pas et à quel degré il les présente. N'oublions pas qu'un psychiatre en garde à vue a dit que son état mental était compatible avec la garde à vue, qu'il n'avait pas trouvé de troubles délirants francs. Donc, pour lui, pour ce clinicien, il n'y avait pas de troubles mentaux forts. Voilà. Donc maintenant, après ce détenu, ce mis en cause, s'est montré particulièrement opposant et ne souhaitant pas coopérer, ne voulant pas coopérer avec les enquêteurs, d'où ce que vous avez pu constater, le fait qu'il se roule par terre pour ne pas être extrait de sa cellule, le fait qu'il soit sorti de force sur une chaise. Donc tout ça montre ses signes d'opposition.
Est-ce que ça peut être, dans les affaires que vous avez été amené à analyser, à observer, une tactique de défense dans de nombreuses affaires que de jouer, que de surjouer une forme de folie ou de démence? Est-ce que ça peut faire partie d'une stratégie, ou est-ce que peut-être que c'est quelqu'un qui souffre de troubles mentaux mais qui n'ont pas été détectés, ou de troubles mentaux qui se déclenchent avec l'âge?
Alors pour l'instant, il y a très peu d'éléments qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. On ne sait pas si le fait de se rouler par terre était le signe de troubles mentaux ou pas. Moi, j'y vois quand même un signe fort d'opposition et de non-coopération avec les enquêteurs. Voilà. Et après, à partir du moment où quelqu'un ne parle pas, refuse de parler, c'est très difficile d'investiguer cliniquement parce que les appréciations, les évaluations psy se font essentiellement par la parole. Donc il sait très bien que là, en livrant très peu de choses, il y aura très peu de conclusions le concernant. Et d'ailleurs, c'est un gros problème puisque le seul gros problème de cette affaire criminelle extrêmement simple, puisqu'on en connaît, ils ont même été filmés, les passages à l'acte, on en connaît l'auteur, on en connaît l'arme, simplement, du fait de la position de cet auteur, on n'en connaît pas les mobiles qui sont évidemment quelque chose de très important.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard d'avoir répondu à nos questions. On va continuer à parler des sujets que vous avez abordés tout à l'heure. Aurélie Gros, je ne vous ai pas encore entendu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux visions qui s'opposent sur le droit d'asile et sur la corrélation entre présence migratoire et agression de ce type. Vous les avez entendus tout au long du week-end. Deux visions radicalement opposées, celle de Jordan Bardella et de Clémentine Autain.
Ce drame, c'est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe. Comment un réfugié syrien qui a le droit d'asile accepté, puisque sa demande a reçu un avis favorable de l'État suédois en Suède, a-t-il pu se déambuler librement dans l'espace Schengen et se retrouver en France, alors même que sa demande d'asile qu'il avait faite dans un second temps en France a été rejetée?
Je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes, sur l'agenda qui est celui de l'extrême droite. Voilà. Parce que immédiatement, on est passé au procès de l'ensemble des migrants. Or, ce Syrien, effectivement, il est syrien, il est d'origine syrienne. Pourquoi a-t-il fait cet acte? Est-ce qu'au fond, s'il l'avait fait dans un autre pays, on s'en serait dédouané en disant bah, c'est pas grave, il y a un acte de démence, mais c'est ailleurs, ça n'est pas en France. Donc,
et vous refusez de faire le lien entre ce drame et l'immigration?
Il n'y a pas de lien. Quel est le lien?
Il n'y a pas de lien, Aurélie Gros. Il faut le traiter comme deux choses distinctes.
Non, alors déjà, pour revenir sur les propos du médecin, pour moi, toute personne qui commet des actes comme ça, me dire qu'il n'est peut-être pas fou, moi, personnellement, vous voyez, ça me choque. Moi, toute personne qui est capable de poignarder des enfants, c'est un fou furieux, complètement malade, c'est un barbare, un animal. C'est, voilà, pour moi, personnellement, vous voyez, là, je mets de l'émotion.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable de ses actes.
Ah non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable de ses actes.
Oui, mais vous en mettez le mot fou dans un autre...
Oui.
Dans une autre exception.
Après, effectivement, le droit français est plutôt favorable dans certains cas. Donc, de lien... Alors, la question est relativement subtile, parce qu'il est assez facile des deux côtés, en fin de compte, d'être démagos, alors que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, les uns disant « il n'y a pas de lien », les autres « il y a totalement un lien ». Je pense qu'il y a un problème, effectivement, d'immigration en France qu'il va falloir régler. Il est anormal qu'il y ait des personnes en situation irrégulière comme il se trouve. On a eu plusieurs cas quand même, c'est pas le premier et à mon avis ce sera pas le dernier, que ces personnes soient sur le territoire sous OQTF et puissent continuer à taper des flics, tuer des gens, promener des valises avec des cadavres à l'intérieur. Alors là j'exagère, ils sont pas tous comme ça parce que la grandeur de la France c'est aussi le droit d'asile. Vous le savez, il y a des pays où on risque sa vie, où la France les accueille. Et aujourd'hui, on met effectivement tout le monde dans le même panier. Donc ça me dérange grandement de la part de l'extrême droite. Et ce type de débat ne fait que augmenter les voix, pour moi, des populistes. Et moi, je trouve que voilà, c'est pas le bon biais, en tout cas, à prendre. Après, qu'il y ait un besoin de réforme sur l'immigration, évidemment, et je crois qu'on en est tous, conscients, et je pense qu'on en est tous d'accord. Et je pense que les Français en sont d'accord. Il y a des personnes qui... Mais ce qui me gêne, c'est qu'en France aujourd'hui, par exemple, moi je vais pas parler de l'Europe, vous voyez, je vais parler de la France. En France, les recours, par exemple, les recours quand vous n'avez pas vos papiers sont tellement énormes, les tribunaux permettent un tas de recours, et ça c'est peut-être à revoir. Vous voyez, je jetterai pas l'opprobre sur l'Europe ou sur le droit d'asile,
mais
de façon radicale
au-delà du fait
démago,
que voilà. Jordan Bardella, juste une petite réponse, au-delà du fait que ce soit Jordan Bardella qui reprenne à son compte ce terme de désordre migratoire, si vous faites exception Jordan Bardella, avec qui on l'a bien compris que vous n'étiez pas d'accord, est-ce que vous concevez qu'il y ait un désordre migratoire aujourd'hui dans notre pays?
Il y a
tout ce que vous décrivez d'ailleurs.
Oui. Il y a un désordre migratoire, ou du moins, il y a un problème avec les passeurs, qui pour moi sont des criminels. Vous voyez, par exemple, moi, les passeurs, ils seraient condamnés. Il y a un problème de droit en France sur les personnes qui arrivent effectivement et une longueur pour obtenir les papiers qui font qu'à un moment, les vraies personnes qui vraiment demandent le droit d'asile, qui sont en danger de mort. Moi, à Marseille, j'ai fait une conférence sur démocratie et autocratie il y a 2 jours avec des gens venus d'Ukraine, de Taïwan, d'Iran. Et ces femmes nous ont expliqué ce qui se passait. Et il y a plein de réfugiés, par exemple, qui risquent leur vie, qui voudraient venir en France, qui viennent d'Iran, parce qu'ils ouvrent, ils défendent le droit des femmes, le non-port du voile. Ils sont à leur côté et la France ne les autorise pas à venir. Donc, pour moi, sincèrement, il y a un désordre migratoire, d'une part, sur la longueur pour obtenir sérieusement un droit d'asile en France, la longueur administrative, qui se noie au milieu d'un paquet de gens qui fraudent et qui viennent grâce aux passeurs. Donc voilà, moi c'est...
On va juste distribuer un petit peu le temps de parole. Alors, est-ce qu'il faut revoir le droit d'asile ou la manière dont il s'exerce ? Moi j'aimerais, Gabriel Cluzel, que vous réagissiez à ce que nous dit Didier Lesky, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Non, il ne doit pas être remis en cause, mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une partie de ceux qui s'inscrivent dans la demande d'asile qui en réalité ne relèvent pas du droit d'asile. Et donc la seule solution, et c'est ce qui a été mis en place maintenant depuis plusieurs années, c'est de raccourcir considérablement les délais de traitement des demandes pour faire en sorte que ceux qui ne relèvent pas de l'asile au bout du compte puissent être ramenés chez eux.
Déjà, le raccourcissement des délais, je crois que ça avait déjà été fait par la Macronie. Or, à la fin, ils ne le sont pas. Les OQTF, c'est 12%. Donc est-ce que tout ça, c'est des paroles en l'air ?
Évidemment que c'est des paroles en l'air. Moi, c'est vrai que depuis 3-4 jours, je ne supporte plus ce préambule, ce préalable qui consiste à dire, avant qu'on ouvre le bec sur le droit d'asile est sacré, c'est l'honneur de notre pays, c'est une espèce de mantra que tout le monde répète avec Psittacine. Je vais vous dire ce que c'est l'honneur de notre pays. L'honneur de notre pays, c'est que ses ressortissants vivent en sécurité, c'est que ses petits bébés ne soient pas poignardés, c'est ça l'honneur de notre pays. Et c'est ça le droit sacré à vivre chez soi en sécurité. Le droit d'asile, ça vient ensuite, si j'ose dire. Donc je ne supporte pas qu'on répète ça comme si c'était un dogme de foi. Par ailleurs, moi je veux bien qu'on soit dans le déni. Ah non, il n'y a pas de lien avec l'immigration. Au-delà du fait que Gérald Darmanin lui-même l'a fait. S'il y en a un qui est bien au courant de toutes ces affaires-là, c'est Gérald Darmanin. Je vais vous donner quelques faits divers, si on peut appeler ça des faits divers, des drames qui ont émaillé ces quelques dernières années et qui sont liés à l'impéritie migratoire. J'y pense parce que des enfants sont morts dans ces attentats-là, oui. Le 14 juillet à Nice, 15 enfants, rappelons-le, ce type-là n'avait rien à faire chez nous. Bataclan, on sait qu'ils ont suivi la route migratoire clandestinement du chaos syrien. Lola, évidemment, un OQTF non, et voilà, mis en pratique. Les jeunes filles de la gare de Lyon, aussi. Le jeune Timothy à Villeurbanne.
De la gare de Marseille, non ?
De Marseille, pardon, oui. Pas de Lyon, excusez-moi.
Je pensais
déjà à Villeurbanne, pardon. Oui, vous avez raison.
Je comprenais à quoi vous y pensez.
Exactement, vous êtes vigilante, c'est bien. Et donc, on peut faire un inventaire à la Prévert de tout cela. Et on ne peut pas écarter du revers de la main. En plus, ce qui est très curieux, il y a un espèce de discours antinomique parce que l'OMS elle-même dit, vous savez, c'est des gens qui arrivent avec des troubles psychologiques statistiquement plus nombreux que dans notre population parce qu'ils ont vécu des choses affreuses, etc. Ben, il faut l'anticiper, il faut être prudent, il faut savoir. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences pour notre population ? Évidemment. Donc moi, je veux bien qu'on reste dans le déni, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'à un moment, on se heurte au mur de la réalité.
Un dernier mot de réflexion. J'imagine que vous allez abonder en partie dans son sens. Oui, ça va la mettre du beurre.
Oui, je vais remonter dans son sens et c'est très juste que Madame Cluzel égrène tous ces faits dramatiques. C'est une réalité, évidemment. Et ce problème de droit d'asile, en réalité, il est bicéphale, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez d'une part le nombre de déboutés des cours nationales d'asile, du droit d'asile, parce qu'on est quand même outillé en France. Hein. C'est pas quelque chose qui est pas du tout traité, et non pas maltraité. Et vous avez quand même 40% du contentieux du Conseil d'État qui relève spécifiquement du droit d'asile. Le problème, c'est que lorsque ces gens sont déboutés, évidemment, ils restent sur le territoire français. Et ensuite viennent les CRA et ensuite viennent les OQTF. Donc là, je rejoins le propos de Madame Gros. 90% des OQTF ne sont pas exécutés en France. Donc le premier problème, c'est d'abord un bras de fer diplomatique avec les pays d'origine pour qu'on puisse les renvoyer chez eux.
Ce qu'on a tenté d'entamer, ça...
L'Algérie, par exemple, a complètement gelé. L'Algérie a complètement... Alors, entre autres, l'Algérie a particulièrement... éradiquer la possibilité même de pouvoir octroyer les laissez-passer consulaires afin qu'ils puissent revenir en France. Ça, c'est le premier problème. Le problème du contentieux des OQTF, de ces gens qui sont sur le territoire français, qui n'ont rien à y faire et qui, de surcroît, comme disait Madame Cluzel, commettent des meurtres et des crimes absolument barbaresques. Premier problème. Deuxième problème.
Alors, rapidement, vous avez... ou alors on y revient après,
juste,
parce qu'on doit s'interrompre.
Je termine,
là,
je termine parce que c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Vous avez parlé, Madame Gros, effectivement, de la possibilité qu'on pouvait de sécuriser l'immigration, car tout le monde, évidemment, n'est pas inscrit dans une logique traumatique. Tout le monde n'est pas un criminel, tout le monde n'est pas un psychotique, tout le monde n'est pas un psychopathe. Je suis d'accord avec toi. Avec vous, pardon. Les gens viennent en France, mais le problème, en réalité, c'est pas l'immigration. Qu'elle arrive ou pas sur le territoire français. Le problème, c'est le combat culturel. Le problème, c'est la machine intégrative et assimilationniste qui ne fonctionne plus dans notre pays. Que voulez-vous faire lorsque vous avez en face de vous, dans le pays dans lequel vous vivez, un espèce de laisser-aller, de laisser-faire, sans volonté d'agréger, de fédérer ces gens qui arrivent dans notre pays autour de valeurs communes? Comment voulez-vous faire? Ça fait 40 ans que c'est un échec. Ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec l'intégration.
Donc vraiment partir en pub. Je suis désolée.
Je vais vous couper. En déflagration culturelle.
Je n'ai aucune flexibilité sur cette demi-heure-là. Je suis désolée, mais on y reviendra parce qu'on parlera aussi des migrants de la rue Erlanger, vous savez, dont on attend le sort à la fin du mois de juin, et on aura l'occasion d'en reparler tout de suite. De retour avec vous dans 90 minutes info. Le débat va reprendre juste après le JT. Il est de retour, tel une comète, mais profitez-en, il ne fait que passer. Simon Guillain, bonjour.
C'est un vrai plaisir. Bonjour Nelly et bonjour à tous. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale pour commencer ce journal où les députés examinent à partir de 16h une nouvelle motion de censure déposée par la NUPES. C'est la 17e déposée par les oppositions contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Sachez que le Rassemblement national a décidé de voter cette motion de censure, mais ce n'est pas le cas des Républicains.
Donc par une communication du...
Dans le reste de l'actualité, le HHC ne sera plus en vente libre en France à partir de demain. Il s'agit en fait d'un dérivé du cannabis. Cette décision fait suite à des travaux ayant montré que le HHC présente un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis. Certains pays comme l'Autriche, la Belgique ou encore le Danemark l'ont récemment interdit. Un mois après le suicide de l'INSEE dans le Pas-de-Calais, le gouvernement veut renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Sachez que cette semaine, une heure de sensibilisation va être mise en place dans tous les collèges de France. Une décision du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, jugée assez surprenante par cette enseignante de français. Écoutez.
Ça ressemble strictement à rien. Je me mets à la place, en plus des chefs d'établissement qui sont en plein dans les conseils de classe et l'organisation des examens de fin d'année, et on leur met ça en plus de leurs tâches habituelles, comme on fait toujours à l'éducation nationale. Alors, c'est pas à quoi ça devrait ressembler, c'est que ça n'a pas de sens. Déjà, le harcèlement doit être défini. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Ensuite, le deuxième problème, c'est que c'est pas une heure qui va régler quoi que ce soit. Il faut comprendre pourquoi les enfants harcèlent. L'école est le miroir de la société, donc une société de plus en plus violente, ça se traduit à l'école. Pour ça, il faudrait des mesures absolument radicales et énergiques, ce qu'on ne fait jamais. On fait toujours des petites mesures qui servent à rien.
Et on poursuit ce journal avec l'hommage des Italiens à Silvio Berlusconi, qui est mort à l'âge de 86 ans. Certains sont rendus devant l'hôpital de Milan où il était hospitalisé. D'autres sont allés devant son domicile, figure de la politique italienne, il Cavaliere, comme il était surnommé dans son pays. A été trois fois chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni a réagi à ce décès sur son compte Twitter. Regardez.
Silvio Berlusconi était avant tout un combattant. C'était un homme qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie pour lui permettre de réaliser de véritables percées dans le monde de la politique, de la communication et des affaires. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné, perdu de nombreuses batailles. Et avec lui, nous ramènerons aussi à la maison les objectifs que, ensemble, nous nous étions fixés. Au revoir, Silvio.
Et sachez que les funérailles de Silvio Berlusconi auront lieu mercredi à Milan. Et enfin, retour en France. Pour terminer ce journal, on va évoquer ce retour à la liberté pour une quinzaine de tortues sur l'île de Ré. Vous voyez ces belles images échouées sur les côtes de l'Atlantique l'hiver dernier. Eh bien, elles ont été soignées pendant plusieurs mois avant enfin de retrouver l'océan. Ces belles images commentées par Corentin Brie.
Sous les encouragements et les applaudissements,
15 tortues ont été relâchées dans l'océan Atlantique à l'île de Ré ce jeudi. Tout avait été retrouvé échoué sur les plages entre novembre et avril. C'est ici à La Rochelle, au centre d'études et de soins pour les tortues marines, qu'elles ont été accueillies.
Elles ont été rapatriées et en tout cas signalées par des promeneurs. Et ensuite, des correspondants locaux sont intervenus pour les récupérer, les acheminer vers notre centre de soins.
L'objectif est double, soigner et étudier les reptiles.
Elles sont déshydratées, elles sont carencées et elles présentent également des infections pulmonaires. Donc le travail dans le centre de soins a été donc de soigner ces pathologies.
L'étude continue également au cœur des océans grâce à des balises.
Il y a certaines tortues qui ont une balise et donc on pourra avoir un vrai retour sur leur trajet. D'autres non parce que c'est trop petite pour obtenir une balise.
En 35 ans d'existence, le centre a remis à l'eau 236 tortues marines.
Et voilà pour ce journal de 16h sur CNews. J'étais une nouvelle fois très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Vous retrouvez Nelly Denac tout de suite pour la suite de 90 minutes info sur CNews.
Et prenez votre temps pour sortir vous aussi, cher Simon. Merci, à très bientôt. Merci pour ce journal complet. On va reprendre le débat. On va justement revenir à la vie et l'œuvre de Silvio Berlusconi, dont on sait qu'il a été omniprésent dans le quotidien des Italiens pendant des décennies, que ce soit en politique, dans les médias, le foot, on ne l'oublie pas, et même en défrayant la chronique. À 86 ans donc, Silvio Berlusconi, le sulfureux, n'est plus. Petit retour sur cette vie hors norme, ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire avec Mickaël Dos Santos.
Silvio Berlusconi, c'est l'homme aux mille vies. Tout commence dans les années 60, cet enfant de la bourgeoisie milanaise fait fortune dans le bâtiment. Loin d'être rassasié, celui que l'on surnomme Il Cavaliere utilise son argent pour étendre ses tentacules. Dans les années 70, il crée un empire télévisuel en Italie et dans toute l'Europe. 86, il lance La 5, la première chaîne de télévision privée et gratuite de France. La même année, il s'offre le Milan AC, un club avec lequel il atteint les sommets et remporte 5 Coupes d'Europe. Tout sourit à Berlusconi, ne manque plus que le pouvoir politique. Mais là encore, ce n'est qu'une question de temps. En 1994, Silvio Berlusconi arrive sur la scène politique comme un sauveur. Alors que les deux plus grands partis du pays sont gangrénés par des affaires de corruption, l'homme d'affaires promet de rendre l'Italie plus propre. 4 mois plus tard, il devient le chef du gouvernement.
Le président de la République m'a demandé de former le gouvernement.
Pendant près de 10 ans, Silvio Berlusconi va occuper ce poste par intermittence. Son dernier mandat sera celui de trop. Empêtré dans plusieurs affaires judiciaires pour corruption et pot de vin, le président du Conseil des ministres est également soupçonné d'avoir fait appel à des call girls mineures dans des soirées bunga bunga. Connu comme le Ruby Gate, cette affaire l'amènera à commettre l'un de ses dérapages les plus célèbres.
J'ai toujours travaillé sans interruption. Et si parfois je vois une belle fille, je dis vaut mieux aimer les filles que d'être gay.
En 2011, sous la pression, Silvio Berlusconi quitte le pouvoir, une démission célébrée par certains Italiens. En 2013, il sera condamné à 7 ans de prison et à une peine d'inéligibilité pour fraude fiscale, une sanction injuste selon lui.
C'est ainsi que l'Italie reconnaît les sacrifices et les engagements de ses meilleurs citoyens.
Malgré sa condamnation, le Cavaliere se remet rapidement en selle. Malgré des problèmes de santé, dont une opération à cœur ouvert en 2016, il devient tour à tour député européen, sénateur et allié de l'actuel chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi revient également aux affaires avec le club de foot de Monza qu'il acquiert en 2018. Avec le temps, l'homme a revu ses ambitions à la baisse, mais continue de marquer l'histoire transalpine.
C'est de toute façon une page qui se tourne. Gabriel Cluzel, si vous deviez employer un qualificatif quand même pour résumer ce personnage, lequel serait-il ?
Je dirais flamboyant. Voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de le résumer en France parce que nous n'avons pas la perception italienne. Mais si on devait le comparer, il y a un peu de Trump, un peu de Tapie, un peu de Le Pen, le senior. C'est vrai que c'est un peu ces personnages-là À la fois, mais il est amusant de voir que beaucoup de politiques lui rendent hommage. Les médias parlent de personnages sulfureux, et c'est vrai que on ne peut pas dire que c'était quelqu'un de tout à fait lisse. Mais néanmoins, de nombreux politiques lui rendent hommage un peu partout. Et l'Italie, il a quand même modifié profondément son paysage politique en permettant une union des droites qui était par exemple impossible en France. Donc ça, c'est une réalité. Qui aujourd'hui est encore présente en Italie en la personne de Giorgia Meloni.
Sabrina Majubar, c'est de toute façon quelqu'un qui n'aurait jamais pu traverser la vie politique en France comme il l'a pu le faire chez nos amis transalpins. Enfin, c'est inenvisageable ce genre de carrière politique qui brouille un peu les pistes aussi avec les médias, avec le spectacle. Ça n'arrive qu'en Italie au fond.
Alors c'est un peu arrivé avec Bernard Tapie parce qu'on a aussi
il a une carrière politique plus éphémère quand même.
Effectivement, ouais. et dans un registre beaucoup moins sulfureux, comme disait Madame Cluzel. Oui, un personnage comme Silvio Berlusconi, en France, c'est évidemment, et ce serait évidemment très difficile qu'il puisse justement afficher un vrai projet, une vraie vision politique pour son pays, puisque nous, en France, malheureusement, nous sommes trop bridés, trop pusillanimes déjà à dénoncer ce qui se passe dans la société. Et si en plus on a le malheur de le faire, on est évidemment tout de suite taxé de xénophobes et d'infamants fascistes lorsqu'on dénonce, par exemple, ne serait-ce que la désagrégation culturelle dans notre pays ou des phénomènes d'immigration dont on a parlé tout à l'heure. Donc je ne pense pas qu'un personnage comme Silvio Berlusconi aurait pu prospérer dans notre pays, bien que, comme le rappelle Madame Gabrielle Cluzel, il a inspiré notamment Giorgia Meloni dans son projet politique parce qu'il s'est, je pense, rendu compte assez tôt qu'il fallait nécessairement une fédération, une coalition entre les droites pour mener à bien et à terme un projet justement de préservation de l'identité de son pays, ce qui nous manque en France malheureusement.
Aurélie Gros, c'est un précurseur d'une certaine tradition, d'un certain héritage politique qui perdure, qui prospère aujourd'hui en la personne de Giorgia Meloni.
Oui, alors moi, si je devais le qualifier, je dirais qu'effectivement, libéraliste, très bien, mais on va pas dire que c'était un homme de grande vertu. Donc moi, ce qui m'interroge, et si je fais un lien entre tous les débats, en fin de compte, c'est la question du droit et comment les populations peuvent se reconnaître face à un homme ou une femme politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, dans la société française actuelle, c'est que le droit, la loi est de moins en moins respecté, qu'on peut griller un stop et se faire arrêter par la police et la police se prend une tarte, c'est-à-dire il n'y a plus de limites et de respect des institutions. Donc je m'interroge toujours sur ces personnages sulfureux qui à un moment donné donnent un exemple mais qui n'est pas forcément le bon aux populations. Après je peux comprendre que sur certains débats il y a eu une franchise, mais il a souvent dépassé les bornes sur question un peu d'humanité et des dérapages verbaux et même de probité en général. Donc,
et dans le rapport qu'il avait aux femmes aussi, aujourd'hui, sans doute que ça passerait beaucoup moins bien.
C'est vrai qu'en France, ce serait un peu compliqué, mais je crois que ça va l'être de moins en moins parce qu'au vu de la façon dont évolue la société actuellement en France, avoir des personnages un peu cash, ça pourrait être possible.
En tout cas, moi, c'est pas ce que je veux. Dans les hommes qui ont des rapports aux femmes problématiques, on n'a pas de leçon de vertu à donner, je crois.
Inhérent à beaucoup d'hommes politiques.
Mais ça change.
Non, mais peut-être pas à ce niveau.
C'est pas quand même, on va dire.
Fayette président, pardon, je vous rappelle.
Oui, bien sûr.
Ça lui a coûté sans doute sa candidature.
Sans doute.
François Hollande peut lui dire merci.
Mais on n'a pas fini d'en parler puisque les funérailles d'État auront lieu mercredi en la cathédrale de Milan et évidemment vous vivrez tout cela aussi sur nos antennes à ce moment-là. J'aimerais qu'on revienne au premier thème qui nous occupait sur ce plateau. On va parler de ces dizaines de tentes alignées dans une école désaffectée de l'Ouest parisien, quelques 500 jeunes migrants, peut-être autour de même de 600 selon les associations. Principalement originaires d'Afrique de l'Ouest, attendent que la justice décide de l'épilogue de leur situation. C'est ce qu'on appelle les migrants de la rue Erlanger. Mais à Moribucco, il faudra attendre encore un peu. On l'a appris ce matin.
Vous avez la mairie de Paris qui a porté plainte. À l'époque, vous aviez environ 200 migrants. Ensuite, c'est monté à 400. Et maintenant, on est entre 600 et 650 migrants actuellement installés dans cette école par des associations. Alors, comme il y a eu cette plainte de la mairie de Paris, eh bien, un mois et demi après, là, vous avez effectivement une audience qui s'est tenue ce matin à 9h au tribunal judiciaire de Paris, avec d'un côté, c'est ce que nous a raconté le maire d'arrondissement du 16e qui était à cette audience, vous aviez d'un côté à la fois l'avocat des associations qui a demandé un délai supplémentaire avant l'évacuation et une garantie de mise à l'abri pour ces migrants. Et d'une autre part, vous aviez l'avocat de la mairie de Paris qui a demandé à ce que, entre guillemets, la propriété soit respectée et que cette école soit évacuée, parce que cette école, elle n'est pas vraiment désaffectée. En fait, elle est en cours de réhabilitation. L'idée, c'est qu'elle redevienne une école. Donc forcément, s'il y a des migrants, c'est compliqué. Au départ, il y a une date qui a été proposée par le tribunal pour dire, bah voilà, on va rendre une décision pour savoir si on évacue cette école. Cette date, d'abord, ça devait être le 26 juillet. Vous rendez compte du délai. Et donc, finalement, sous la pression de la mairie de Paris et du maire d'arrondissement, le tribunal a décidé de rendre sa décision le 30 juin. Et à ce moment-là, l'évacuation n'aura peut-être pas lieu tout de suite. Hein. On saura, en tous les cas, si la préfecture de police est autorisée à procéder à cette évacuation et dans quelles conditions. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait une garantie ou pas de mise à l'abri de ces personnes.
Voilà, une évacuation suivie de quoi? C'est ça aussi la question. C'est exactement. Qu'est-ce qui se passe derrière, au-delà du fait qu'il faut récupérer aussi l'ensemble de l'école?
C'est intéressant. Vous avez la préfecture de police de Paris, en fait, qui procède à l'évacuation en général. Et puis vous avez la préfecture de l'Île-de-France, qui est en charge des hébergements d'urgence, qui en général effectue les mises à l'abri. Mais on sait très bien que, hélas, tous les hébergements d'urgence sont saturés parce qu'il y a un flux permanent aussi de migrants. Hein. Donc le but, en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on reloge ces personnes en Île-de-France. Puis quand ces logements sont saturés, on essaye aussi de les mettre en province. Et puis souvent, ils reviennent aussi en Île-de-France. Enfin, il y a une espèce de turnover permanent, mais ces logements d'urgence sont saturés aujourd'hui.
Sabrina Medjeber, cette histoire, elle est à l'image de la crise et de la pression migratoire constante. On voit bien que ce trop-plein finit finalement par avoir des répercussions sur le quotidien, y compris des personnes concernées, parce que là, on a un vrai risque sanitaire, en plus, pour eux-mêmes.
Déjà, il y a un risque sanitaire, c'est vrai, parce que quand on constate alors c'est effectivement en réhabilitation, hein, si j'ai bien compris. Donc bon, c'est pas non plus un baraquement absolument insalubre, mais enfin bon, quand même, je ne crois pas qu'ils aient des conditions de vie dignes de ce nom. Maintenant, oui, c'est très illustratif du problème que l'on rencontre avec l'installation de ces migrants dont on ne sait que faire et qui sont là pour combien de temps, nous ne savons pas. Et puis, si jamais il y a un sort juridique qui leur est destiné, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer parce que la pierre d'achoppement, c'est toujours le même problème. C'est la discontinuité de la chaîne police-justice, c'est les OQTF qui ne sont pas exécutés. Donc, ces personnes, eh bien, si elles ne sont pas expulsables, elles vont errer dans le territoire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont des contre-sociétés criminalisantes qui s'organisent au détriment de la vie des Français. Donc, moi, je suis désolée, il va falloir que le politique se saisisse sérieusement de ce problème parce qu'encore une fois, ce sont les administrés qui, au départ d'ailleurs, n'étaient absolument pas d'accord parce que je me souviens très bien des manifestations dans les prémices de cette histoire. Ce sont les administrés qui subissent les affres de cette immigration incontrôlée et mal installée. Et donc, il va falloir que le politique songe sérieusement à pouvoir résoudre ce problème. Enfin, j'espère juste qu'un de deux montrera le courage nécessaire et suffisant pour ça.
Pour prendre la mesure de ces conditions de vie et de l'accompagnement qu'ils reçoivent aussi, cet accompagnement qui est critiqué, vous allez le voir à travers ce reportage. Je vous propose de regarder ce commentaire. Sarah Fanzari, Soumaïa Lahalou.
Dans cette école désaffectée, ils sont près de 500 jeunes à dormir sur place rue Erlanger à Paris. Ils vivent depuis plus de deux mois sans électricité, sans eau, avec 6 sanitaires et pas une seule douche. Une situation que cet habitant juge déplorable.
J'étais extrêmement choqué par la manière dont les associations qui se prétendent des associations humanitaires sont en fait des marchandages de jeunes. Ils n'ont strictement rien à faire des jeunes migrants. On le voit, c'est sale, c'est dégoûtant. Ils vivent la plupart du temps, quand je parle de l'association, ils vivent dehors, ils ne restent pas dedans et ils ne s'en occupent pas.
L'association Utopia 56, qui s'occupe de ces migrants parfois mineurs, se défend.
Des dizaines de mails d'alerte à la préfecture d'Île-de-France et aux différents ministères ont été envoyés. Le gouvernement a fait le choix de garder le silence pendant plus de deux mois.
En attendant une décision du tribunal de grande instance de Paris, ces jeunes continueront de loger dans les lieux.
Aurélie Gros, est-ce que ces associations jouent un jeu idéologique, mais ils ne sont pas toujours animés des meilleures intentions, parce que là, c'est quand même un riverain qui le dit. On les voit à l'œuvre, en fait.
Et il n'y a pas que. Et moi, ce qui me gêne, d'ailleurs, dans le discours, c'est que les jeunes, déjà, on ne parle que de jeunes, ils se prétendent mineurs, donc ce seraient des mineurs isolés, mais on ne les a pas reconnus mineurs, donc ils n'ont pas le droit à l'ASE. Et donc, à un moment donné, il y a quand même une question. On les laisse dans ces lieux infâmes, occuper un espace public. Je pense que si toutes les quatre, on va dans le même espace et qu'on installe des tentes, on va sortir très très rapidement. Donc je comprends que les citoyens, les voisins, les Français
se pose la question d'un poids, deux mesures. Ça, je peux le comprendre, comme ça se passe d'ailleurs sur les occupations illicites au moment des grands passages des gens du voyage. Et après, ces jeunes-là, quand ils vont être expulsés, parce qu'à un moment donné, ils vont être expulsés. Donc, ils vont partir dans la rue. Donc, ce sera donc des sans-papiers, on est bien d'accord. Et moi, je vois d'autres responsables au-delà des associations. Déjà, il y a les passeurs, parce qu'ils sont passés, ils sont arrivés par Zodiac. Donc, il y a bien les passeurs qu'on marchandait pour qu'ils arrivent en France. Donc, ceux-là, ils devraient être punis par la loi. Et après, il y a les sociétés en France qui vont employer, alors, notamment les sociétés d'intérim. Je le dis parce que moi, j'ai eu un cas concret, vous voyez. Ces sociétés d'intérim qui vont les employer sous alias pour qu'ils puissent avoir des papiers. Parce que vous savez qu'en France, c'est très intelligent. Pour avoir des papiers, il faut avoir un travail. Mais pour avoir un travail, il faut avoir des papiers. Oui, vous voyez ? Donc, ils prennent des faux papiers, des alias. On ne voit pas bien si c'est eux, si ce n'est pas eux. Ça passe, on ne paye pas cher.
Il faut sanctionner l'employeur qui se soustrait à ses obligations.
Mais bien sûr, mais évidemment. Et il y a eu des cas. Il y a eu des cas dans ce cadre-là. Il y a eu des cas de grosses sociétés et des grosses sociétés d'intérim. Et rien n'est fait. Donc, le système est toujours alimenté. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils viennent, ces jeunes ou pas jeunes, parce qu'apparemment, ils n'ont pas été reconnus jeunes. Je crois qu'il y a maintenant un avis médical en fonction des...
Parce qu'ils ne veulent pas procéder aux tests...
Oui, les tests osseux.
Oui, voilà.
Oui, mais s'ils ne veulent pas s'y soumettre, forcément, il faut trouver la parade aussi.
Bien sûr. Donc, à un moment donné, je comprends que ce soit ubuesque pour les Français et qu'ils en aient... ras-le-bol de ce type de situation, et c'est quand même assez inadmissible, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, de laisser des êtres humains dormir
dans des conditions. Il y a un fait irréfutable.
S'ils sont mineurs, et je termine, s'ils sont mineurs, et j'ai fini, s'ils sont mineurs, à ce moment-là, le droit d'asile, je ne vois pas ce en quoi ils luttaient dans leur pays en tant que mineurs. Donc, on est d'accord.
Aussi, il y a un fait irréfutable, Gabriel Cluzel, c'est que ces scènes-là se reproduisent, sont amenées à se reproduire, et ça commence à faire un effet pratiquement d'habitude, et ça concerne tous les quartiers et maintenant toutes les régions également.
Nous les commentons à l'infini, c'est une espèce de tonneau des Danaïdes du reste, parce que des flux continuent d'arriver, donc à chaque fois il faut trouver des solutions, donc on parle de migrants qu'on disperse à la campagne, évidemment il faut bien à un moment glisser la poussière sous le tapis pour que les gens, les Français ne prennent pas toute la mesure du problème. Moi je ne comprends pas cette association, par exemple, à Utopia 50, elle est devenue célèbre, tout le monde la connaît. Ce qu'elle fait est illégal. En général, je ne sais pas, je dois avoir un esprit simple et bêta, mais quand on fait quelque chose d'illégal, il y a une loi qui fait qu'on est sanctionné et qu'en principe, ça nous dissuade de recommencer. Là, ce n'est pas le cas. Visiblement, ils bénéficient d'une pusillanimité, d'une trouille, pour parler vulgairement, parce que il y a un magistère moral de gauche qui les protège. On a peur aussi des images au moment des évacuations. Elle se fiche de nous, cette association. Nous, une journaliste de Boulevard Voltaire est allée les interroger. Elle disait, mais c'est bizarre, vous parlez beaucoup de mineurs, mais là, vous dites qu'il est mineur, mais vraiment, il fait très âgé quand même. Ah oui, mais c'est parce qu'il a traversé des choses très difficiles. Vous voyez ? Mais c'est en réalité, si dans notre pays, par exemple, les mineurs isolés qui refusaient de faire des tests osseux, on les considérait a priori comme majeurs, eh bien, ça serait beaucoup plus logique de là de dire, ah bah attendez, vous voulez pas faire de test, très bien, vous êtes mineur, restons-en là. Enfin, vous voyez, on vit quand même au pays des fous, et pour le moment, personne n'a pris le problème à bras-le-corps. Évidemment, un continent ne peut pas se déverser dans un autre. Ils sont pas arrivés là par hasard. Enfin, individuellement, ils n'avaient aucune raison de connaître la rue Erlanger. C'est bien qu'ils ont été pris en main, organisés, qu'on leur a trouvé des tentes, l'emplacement. Donc, intéressons-nous à ceux qui organisent.
Merci. On va s'interrompre. Deuxième interruption de notre séance. Et puis, on parlera d'Elisabeth Borne qui est confrontée à une 17e motion de censure. Les débats ont commencé dans l'hémicycle. On verra quelle en est l'issue avec nos reporters sur le terrain. À tout de suite. Nous sommes de retour et le débat reprendra juste après le rappel de la Minute Info avec Somaïa Labidi.
Décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans, Rome décrète une journée de deuil national ce mercredi et des funérailles d'État se tiendront dans la foulée à Milan. Le gouvernement italien a salué la mémoire de l'un des hommes les plus influents de l'Italie. Vladimir Poutine lui a également rendu hommage, saluant une personne chère, un vrai ami, déplorant une perte irréparable. Face à l'inflation, des mesures salariales pour les fonctionnaires, le gouvernement prévoit une augmentation générale et une revalorisation ciblée pour les agents les moins bien payés. Des mesures actuellement présentées aux 8 syndicats qui sont reçus par l'exécutif. Deux départements, Lorrain, en vigilance orange pour incendie. La Meurthe et Moselle et la Meuse font face à un risque élevé de feu, indique Météo France. 11 autres départements du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté et d'Île-de-France, sont classés en vigilance jaune.
Merci beaucoup. On va parler d'Elisabeth Borne qui voit face à elle une 17e motion de censure. C'est la députée socialiste Valérie Rabault qui défend cette nouvelle motion de l'alliance de gauche NUPES après l'échec, vous le savez, jeudi pour tenter d'abroger la retraite à 64 ans. Mais Élodie Huchard, vous qui êtes aux premières loges, et on va parler de ces débats un petit peu houleux, faute de soutien de la part de la droite, peu de chances, peu de probabilités pour que cette censure soit votée.
Aucune, même Nelly, très clairement, il n'y a pas beaucoup de suspense. Et d'ailleurs, on le sent très clairement ici à l'Assemblée nationale, puisqu'on a assez peu de journalistes. Et il faut bien le reconnaître, l'hémicycle est très clairsemé. Alors, vous le disiez, maintenant, ce sont les prises de parole qui se succèdent. En ce moment, c'est Cyrielle Chatelain, pour le groupe écologiste, qui a pris la parole. Et puis, Elisabeth Borne, eh bien, elle a tenu à remercier la NUPES, évidemment, de manière ironique. Elle les remercie notamment de montrer aux Français qu'il n'y aura pas de majorité alternative. La Première ministre qui a expliqué aussi qu'elle trouvait cela incohérent que ceux qui avaient perdu deux présidentielles et deux législatives se pensent capables de pouvoir représenter le peuple. Elle leur a dit aussi qu'elle ne confondait pas le courage et les décibels. Une ambiance quand même un petit peu électrique dans cet hémicycle très clairsemé. Effectivement, c'est la NUPES qui propose cette motion de censure. Le groupe Liotte n'a même pas donné de consigne de vote parce qu'ils estiment que la semaine dernière, c'était un peu leur baroud d'honneur et qu'à présent, ils ne veulent pas aller plus loin. Et puis, effectivement, ce qui change la donne cette fois, ce sont les Républicains. Vous vous en rappelez sans doute, il y a plusieurs semaine, certains avaient voté cette motion censure. Et bien, a priori, ça ne sera pas le cas cette fois-ci, sauf un ou deux votes extrêmement isolés. Un gouvernement donc qui est relativement tranquille, puisqu'il ne risque pas de tomber aujourd'hui, et surtout parce que c'est le dernier épisode du feuilleton des retraites ici à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup, Élodie Huchard, pour toutes ces précisions. Je vous propose justement d'écouter la teneur des échanges avec cette petite réponse d'Elisabeth Borne à ceux qui veulent la faire tomber aujourd'hui.
Avec vous, nous vivons en effet des temps d'incohérence, de contradiction, j'en ai même bien peur, des temps de démagogie. Des temps d'incohérence où ceux qui ont perdu deux présidentielles, deux législatives et ne disposent d'aucune majorité sur ces bancs prétendent être les seuls légitimes pour parler au nom du peuple. Où ceux qui appellent à juste titre à s'opposer au Rassemblement national sont les mêmes qui veillent à rendre les textes de leur motion de censure acceptables pour l'extrême droite et comptent sur ces voix pour tenter de renverser l'exécutif.
Et on a même assisté à une petite redite. Hein. Ça nous a rappelé quelques souvenirs pendant la séquence réforme des retraites. Regardez la réponse de Yaël Braun-Pivet qui a dû reprendre un petit peu à l'ordre le député Louis Boyard.
Mesdames et messieurs les députés...
Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre ? Vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette Assemblée et la Première ministre.
Aurélie Gros, que vous inspire ce spectacle ? Est-ce que les Français sont bien défendus par certains de leurs parlementaires aujourd'hui ?
Alors moi, ça m'inspire un cirque. Vous voyez le cirque ? Vous avez l'éléphant, vous avez le clown.
Donc c'est grotesque, en fait.
Franchement, honnêtement, déjà, première chose, c'est pas respecter les institutions que de se comporter comme ça dans un hémicycle et de parler comme ça à nos représentants. Après, on se demande pourquoi les Français respectent de moins en moins la politique. Bah, tout simplement que quand ils voient ce spectacle-là, et qu'en plus on est démagos et qu'on leur ment, parce qu'en fin de compte, c'est ces dernières manipulations, parce que ça reste des manipulations, parce qu'on connaît tous le résultat. Ouais. Et moi, je ne suis pas... forcément pour la réforme des retraites telle qu'elle a été présentée. Vous voyez, donc je ne suis pas la représentante du gouvernement. Mais par contre, mentir aux Français, être démago jusqu'à ce point-là, la NUPES, je trouve que c'est vraiment irrespectueux, c'est dangereux, ça sépare les Français les uns contre les uns des autres. On ne fait pas, on ne fait plus nation, et les députés, pour moi, c'est...
Et puis je vous propose d'écouter Clémentine Autain, à qui on posait la question dans un média ce matin, au fond, de savoir à quoi servait une énième motion de censure. Écoutez sa réponse.
Ça sert déjà à exprimer notre colère, notre réprobation à l'égard d'un gouvernement et d'un président de la République qui a utilisé le pire de la Ve République, des mécanismes rendus possibles par cette Constitution qui est totalement obsolète, elle est dépassée, il faut dire les choses, pour imposer une loi dont les Français ne veulent pas, dont les syndicats ne veulent pas et dont l'Assemblée nationale ne voulait pas.
Exprimer la colère et après, enfin, on la connaît déjà cette colère, enfin, les Français l'ont exprimée.
Non mais c'est vrai que c'est assez confondant. Parce que la colère, c'est pas un but en soi, donc c'est vrai que c'est
il y a un objectif concret derrière.
Le sentiment que c'est la France de la vocifération, c'est très particulier. Moi, je suis très frappée de voir que Yael Braun-Pivet, c'est un peu la preuve de collège en zone sensible depuis le début de cette réforme des retraites. Donc elle essaie de donner une heure de colle à Louis Boyard qui s'en contrefiche. Et c'est vrai que c'est assez emblématique du climat général du reste dans la société, hein, parce que ça devrait être un endroit d'autorité comme l'école. Et visiblement, c'est très compliqué. Il se croit encore à une AG de l'UNEF où il était tout permis. Donc, c'est vrai que c'est confondant. Et la réponse de Clémentine Autain, il faut remarquer qu'elle est sur la forme, donc la colère, mais il n'y a pas de fond.
Oui, c'est-à-dire
que c'est un peu une révolution à bas bruit permanente, puisqu'elle dit qu'il faut changer la Constitution. Il n'y a rien de concret, c'est vraiment l'envie de faire table rase de la situation actuelle et donc d'exprimer sa colère.
C'est le coup d'éclat permanent, mais est-ce que c'est ça la politique, Sabrina Medjeber?
Ah non, la politique, ça n'est pas le culte de l'adolescence, hein, certainement pas, c'est au contraire justement le respect des institutions a commencé déjà, j'ai envie de dire, par la tenue, mais enfin, Louis Boyard, moi ça me fait doucement rire quand je vois un ex-dealer adulé par toutes les racailles qui essaye de porter la vindicte sur une femme dont le parcours est quand même assez exceptionnel. Hein. Yael Braun-Pivet, elle a été élevée par une mère seule, elle a été avocate, elle est devenue députée, maintenant elle est présidente de l'Assemblée nationale, donc on voit bien l'irrespect qu'il y a, mais c'est ce que je rappelle, hein, c'est le culte de l'adolescence, c'est-à-dire vraiment le manque de respect et à la fois des individus et à la fois des institutions qu'il est censé représenter. Vous voyez la façon dont il est accoutré, dont il se tient. Mais ça, c'est le florilège de toute la NUPES. Hein. Ils sont à peu près tous comme ça, hein, entre l'une qui vient en boubou, l'autre qui mâche un chewing-gum la bouche ouverte et qui interpelle la présidente de l'Assemblée nationale. C'est toujours grossier, c'est toujours vulgaire, c'est toujours irrespectueux. Donc je trouve ça très dégradant. En même temps, lorsque Clémentine Autain nous parle d'une constitution obsolète, enfin, elle est parlementaire, donc la première des choses qu'elle doit faire, c'est justement respecter la constitution. On peut dénigrer ou pas l'exercice du 49-3, on peut dire que ça a été d'une verticalité absolument extrême. Il n'empêche que c'est un exercice qui est légal, c'est un exercice qui relève du droit parlementaire, du droit constitutionnel, de la Constitution. Donc dire que la Constitution est obsolète, elle se trompe complètement. Mais comme disait Mme Cluzel, ça démontre aussi chez la NUPES ou les membres de la NUPES toujours cette volonté un peu insurrectionnelle de renverser le pouvoir symbolique, de renverser
le pouvoir politique. C'est faire la révolution de l'intérieur.
On a toujours l'impression qu'ils sont dans une espèce de révolution à la fois symbolique et à la fois politique. Mais enfin, il faut que Mme Autain comprenne que son discours est déjà lui-même obsolète, en fait, et qu'il ne sert strictement
à rien. Allez, puisqu'on parle on passe à un autre thème, mais il y a un lien. On parle de respect des instances et des institutions. On va parler du nouveau président de l'instance française de football, de la FFF. C'est Philippe Diallo qui rappelle que seules les règles de la fédération doivent s'appliquer concernant le port du voile en compétition dans notre pays. D'ailleurs, il a envoyé un courrier à tous les présidents régionaux et départementaux. On sent que les choses commencent à bouger. On verra si c'est suivi des faits. Sarah Varni.
La question du port du voile dans le football revient sur le terrain, notamment après le signalement du préfet de Seine-Saint-Denis en début d'année à propos de plusieurs matchs disputés par des joueuses voilées. Alors président par intérim, Philippe Diallo avait déjà dû faire un rappel des règles sur la laïcité. Officiellement élu depuis samedi, il réitère ses propos. Des règles internationales bien précises qui régissent le monde du sport.
Il faut savoir que les principes du sport sont très clairs sur la question de la neutralité. C'est-à-dire que, par exemple, la charte olympique comporte une règle 50 qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale dans le stade. Et que les fédérations sportives olympiques, non seulement ont leur propre règlement, mais doivent appliquer aussi les principes de la charte olympique.
Même si la FIFA autorise de son côté le port du voile en compétition, pour permettre notamment certains pays comme l'Iran d'y participer, pour tous les matchs et compétitions en France, le règlement de la Fédération française s'impose.
Gabriel Cluzel, la FIFA autorise. Est-ce que c'est
ces approches qui diffèrent en fonction des instances, ça brouille aussi un peu le message, ça retire de la force à nos propres instances.
Non, mais il faut voir que là aussi, il y a une très forte pusillanimité, même si aujourd'hui, il y a une parole un peu ferme. On sait bien qu'à l'endroit du voile islamique, on est très gêné. Et alors, dans le sport, mais ailleurs, en fait, tous les secteurs dans lesquels ce voile islamique avance comme un étendard, disons-le. C'est pas un morceau de tissu anodin, comme on essaie de nous le faire croire. Et c'est évident, sinon il n'y aurait pas ces enjeux-là. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, qui n'est pas dans le sport, mais qui est quand même proche, parce que c'est lié au ministère de la jeunesse et des sports. C'est lié à, d'ailleurs, ça touche plusieurs ministères et secrétaires d'État. Il y a la réserve civique. Vous savez, le site jeveuxaider.gouv.fr. Là, donc les jeunes qui veulent s'engager dans cette réserve civique qui avait été créée après le Bataclan. Eh bien, il y avait une publicité. Alors jusqu'à il y a deux jours, elle a disparu. On a fait un petit peu de battage. Je sais pas pourquoi, que par l'opération du Saint-Esprit, elle a disparu. Il y avait 10 photos de jeunes. Il y avait une jeune fille voilée. Voilà. Et pourtant, avec la République française, il y avait tous les...
Donc déjà, ça commence là.
Voilà. Et en fait, si vous voulez, on montre bien qu'on est très gêné, qu'on a peur de dire que le voile, ce ne sont pas nos civilités. Pourtant, c'est bien Emmanuel Macron qui l'avait dit en 2017. Et de ce fait, on ne peut pas résister. Alors, il suffirait de dire, écoutez, le voile islamique dans le sport, et partout, la FIFA en France, partout, de dire, écoutez, ça ne se fait pas. Il faut des baskets, il ne faut pas des tongs. Alors, si vous venez pas avec votre voile islamique, parce que sinon, vous serez embarrassé. Ça, on n'arrive pas à le dire.
Alors, il y a un point de vue intéressant que je vais vous soumettre, c'est celui de l'ancien arbitre de football, Saïd Njimi. Écoutez-le.
Alors, pour ce qui me concerne, je suis contre, mais pas forcément sur le plan réglementaire, plutôt pour l'idée que je me fais de l'intégration par le sport, principalement, qui est un dernier vecteur d'intégration dans notre pays. Et je considère que c'est important que toutes les jeunes filles, principalement, puissent jouer de la même manière avec l'équipement conforme, un short, une paire de chaussettes, un maillot, pour qu'il n'y ait que le sport qui puisse être mis en valeur. Et puis, naturellement, défenseur de la laïcité. Et puis enfin, même si la fédération a rappelé le principe d'interdiction, c'est principalement, moi, pour des raisons d'éthique, de moralité, et puis d'envie de partager des choses ensemble, loin du contexte religieux.
C'est un point de vue que vous partagez. Le sport, c'est le dernier rempart, en fait.
Mais c'est surtout que dans le sport, on porte tous le même maillot. Il n'y a pas de question de voile et de bêtises comme ça. Et je dirais dans l'espace public en général. Moi, ce qui me fait réagir énormément, c'est qu'on dit la FIFA a autorisé le port du voile justement pour permettre aux pays et aux femmes d'Iran de pouvoir venir jouer en France. Alors, il n'y a pas que l'Iran, il y a aussi l'Afghanistan. En Iran, il y a des femmes, elles se font lapider, empoisonner, taper, mettre en prison parce qu'elles retirent le voile.
Oui.
Et nous, on a ce type de débat. En France, à se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En France, c'est un pays laïque et ça, il ne faut pas y déroger. Il n'y a pas de question à se poser. Chacun est libre d'avoir un parcours religieux, personnel, dans l'espace familial. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, à l'extérieur, et le port du voile est vraiment tout ce que l'on combat dans le monde, justement pour ces valeurs que l'on porte en France. Donc oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors quand ça commence à rentrer dans le sport, alors là, qu'est-ce qu'on fait?
Alors on voulait vous soumettre ça, on verra, ça vient d'arriver, c'est Philippe Diallo qui a donné cette consigne aujourd'hui, on verra si c'est suivi des faits. C'est un dossier qu'on va évidemment continuer de regarder de très près dans les semaines qui viennent. Petite interruption, on revient pour parler d'une autre action menée par Soulèvement de la Terre, dont le nom vous est désormais familier depuis Sainte-Soline. À tout à l'heure. Je vous propose, avant de nous quitter, de parler de ces exploitations agricoles qui ont été saccagées en Loire-Atlantique, que brûle l'agro-industrie. C'est l'un des messages rédigés par des militants écologistes radicaux ce dimanche sur cette exploitation que vous voyez à l'image. Des actions qui font suite à une manifestation de soulèvement de la terre pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles. Regardez le reportage de Mathilde Ibanez.
Des serres arrachées, des champs piétinés, des tacs sur les murs ou encore des tuyaux d'arrosage enlevés. Les militants écologistes ont saccagé plusieurs parcelles agricoles pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles, mais aussi l'utilisation intensive de l'eau. Pour ce maraîcher, c'est l'incompréhension.
On travaille justement sur de nouvelles pratiques dans ce centre. Des pratiques plus vertueuses, des pratiques économes, des pratiques innovantes. S'il y avait un endroit à détruire, ce n'était pas celui-ci.
Des irruptions sur ces carrières agricoles qui font suite à une manifestation itinérante à Nantes où environ un millier de manifestants étaient présents.
On est des activistes écologistes qui essaient d'agir à la hauteur des enjeux en faisant des actions de désobéissance civile qui ne sont pas du tout assimilables à des crimes ou à du terrorisme.
Une action que ce maraîcher juge violente.
C'est de la dégradation gratuite, impunie. Nous, on ne laissera pas ça comme ça, puisqu'on a bien l'intention de continuer notre mission, mais on ne va pas pouvoir assumer des dégradations continuelles. Donc on attend effectivement des pouvoirs publics qui prennent des décisions sur ce genre d'association.
Ces actions ont été menées par différentes associations, dont le mouvement écologiste Soulèvement de la Terre, que le gouvernement souhaite dissoudre.
Sabrina Medjeber, est-ce que l'écoterrorisme, c'est ça? Parce que parfois on a l'impression que quand quelque chose est perpétré au nom d'une cause soi-disant noble, ça s'assimile pas à une dégradation, à un acte délictuel. Et là, on est en plein dedans.
Alors, on est passé effectivement d'une forme d'éco-anxiété qui est tout à fait légitime à une forme d'éco-terrorisme et qui est protéiforme. C'est-à-dire que on est évidemment là face à des dissidents, des exigences de la loi, hein, puisqu'encore une fois, ils violent une propriété privée, ils la saccagent. Alors, on a eu aussi les attaques des musées, des œuvres d'art à la sauce tomate. Mais ça, si vous voulez, c'est entre guillemets le premier format de cette espèce d'air des soulèvements, de grouillement culturel qui fait que, eh bien, on passe finalement, comment dire, de statut de convergence des luttes à convergence des rages, si je puis m'exprimer ainsi. Mais vous avez parallèlement justement à ces espèces d'associations qui, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi elles ne sont pas dissoutes, mais enfin ça c'est encore...
Celle-ci est dans le pipeline de la dissolution quand même.
Vous avez aussi, par rapport à cet écoterrorisme qui est une réalité, des groupes qui sont vraiment dans l'excitation de la guérilla, dans l'excitation de la vendetta, dans l'excitation de la punition, de l'expédition punitive, pardon, comme on l'a vu à Sainte-Soline, où je rappelle que la manifestation a été interdite par la loi, mais qu'elle a été quand même accompagnée de politiques, dont Madame Rousseau, qui, comme d'habitude, avec toute sa stupidité, avait appelé à la désobéissance civile et avait accompagné ce mouvement. Donc, vous voyez, on a affaire à des espèces de personnes excitées, fanatiques, enragées, prêtes à en découdre avec tout, au nom d'une noble cause en plus, parce qu'il s'agit du climat. Mais là, le pauvre maraîcher, il voit cette terre complètement détruite. Enfin, c'est absolument inexcusable. Mmh. Et vous avez au milieu de ça des politiques qui encouragent finalement cette violence sous toutes ses formes. Donc on arrive encore une fois à une guerre d'achoppement. Enfin, c'est le problème.
Parlant de dissolution, c'est pas une inconnue, hein, encore une fois, cette association. Gérald Darmanin lui-même a annoncé qu'elle serait dissoute. Ça prend trop de temps, là, typiquement.
Non, mais évidemment, ça devient, on attend la dissolution comme on attend Godot. Mais c'est ridicule. C'est la belle arlésienne, cette dissolution. Ça devient absolument grotesque quand il s'agit de dissoudre les identitaires, le groupe identitaire. Ceux qui étaient montés là en haut d'une CAF qui n'avaient pas fait ce genre de dégâts à ma connaissance, alors là ça n'a pas fait un pli. Mais qu'est-ce qu'il attend en fait en réalité? Non, mais il y a une forme d'indulgence pour ces gens-là. Toute la littérature qui a été développée sur le sujet le montre. On les considère comme des gens romantiques. D'ailleurs, je suis frappée de voir que cette jeune fille n'a aucun scrupule.
Ouais, exactement.
Ah non, c'est pas un crime. Pardon, c'est une propriété privée. Ouais. Ce que fait ce monsieur, et je qu'on voit encore ce matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un agriculteur s'était suicidé. Ouais. Je me dis, mais quand on voit le fruit de son travail détruit de cette façon-là, alors pour une bonne cause, moi je m'en fiche que ce soit pour une bonne cause. Moi aussi, je pourrais dire, ah oui, les grands supermarchés, ça détruit le petit commerce. Je vais aller ravager tout ça. Mais c'est complètement fou d'en arriver à ce genre de conclusion. Et moi, je suis très frappée de voir que ces jeunes n'ont rigoureusement aucun sens du bien, du mal, de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Et ne pas être sanctionnés, c'est aussi mauvais pour eux, parce qu'ils n'ont plus aucune conscience de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas.
Aurélie Gros, en guise de conclusion, le problème aussi, on le voit de plus en plus, c'est qu'au nom, on est tellement dogmatique qu'au nom de ce dogme ou de cette idéologie, on veut absolument désigner l'agriculteur comme l'ennemi. Or, on le voit bien, cet agriculteur qu'on a interviewé tout à l'heure, il y a aussi des attitudes vertueuses et une prise en compte des dangers écologiques. Bien sûr. Est-ce qu'on peut opposer forcément écologie et agriculture aujourd'hui ?
Mais absolument pas. Et je pense qu'il ferait mieux d'aller se mettre autour d'une table et de travailler avec les agriculteurs et d'échanger justement dans des moments pour expliquer chacun de leur côté ce qu'ils font, plutôt que ce type de comportement qui est d'une violence inacceptable et c'est encore le non-respect de la loi. Après, comment vous expliquez aux jeunes qui tirent des mortiers, qui se battent dans les rues avec des couteaux, etc. Quelle est la différence? Ils sont avec des couteaux, ils entaillent. Moi, si je vais demain à CNews et dire « Ah, CNews, ils sont méchants, tiens, je vais acheter je sais pas quoi, etc. » Vous pensez que je dure combien de temps dans CNews? Vous pensez que je vais pas avoir de problème avec la loi? Comment vous voulez que les Français, à un moment, même, prennent conscience? Moi, je ne suis pas pour l'écologie punitive. Hein. Je pense que ce qu'ils font, c'est contre-productif, même pour cette cause qui est effectivement noble, où on a tous une prise de conscience, où on a envie aussi de trouver des solutions. Ce qu'ils font, c'est de tuer l'écologie. Ils tuent cette cause qui nous concerne tous avec du fanatisme. Moi, c'est le non-respect de la loi, c'est le non-respect du droit. Ces gens-là, ils devraient être punis. Voilà, ils devraient être punis. Mais apparemment, en France, en ce moment, on va dire que la loi, le droit, tout ça, le non-respect des institutions, le non-respect du travail, tout ça, c'est des concepts. Les valeurs, les valeurs ont un peu disparu. Donc, grand soutien à cet agriculteur. Après, il y a toujours des sources d'amélioration dans tout.
Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir joué le jeu du débat. Je note quand même que vous étiez en bleu, blanc, rouge.
C'est ça.
C'était pas fait exprès. Pas de coordination. Dans un instant, punchline. Vous retrouvez bien évidemment Laurence Ferrari. Et moi, je vous dis à demain, 15h30. Excellente fin d'après-midi.